RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI en compagnie de Véronique Rigollet. Nous recevons donc Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, chef de file de votre parti pour les législatives et député européen. On a parlé de la moralisation, des problèmes des parlementaires qui fait l'actualité en ce moment. On va parler de votre parti, des problèmes qu'il rencontre après l'échec de Marine Le Pen. Mais avant tout, peut-être, Nicolas, puisque vous êtes le directeur de campagne du Front National pour les législatives, donc vous défendez, vous avez investi plusieurs candidats qui ont eu des propos dans le passé qui avaient pu choquer, même si vous dites qu'aujourd'hui ils se sont excusés, des propos homophobes, des propos anti-islam ou xénophobes. Alors je peux vous en citer un, dans la deuxième circonscription de Mayotte, donc Madi Ali Bonali écrit sur Facebook en 2016 que s'il avait pu exterminer les Comoriens, il ne s'en serait pas privé. Et puis une autre dans la 13e du département du Rhône, Sandrine Ligou, sur Facebook, poste une photo de moutons. Elle dit « Les moutons seront sacrifiés aujourd'hui pour une fête organisée par des sauvages » en référence à la fête musulmane de l'Aïd. Donc ces personnes-là, elles se sont excusées, ça suffit ?
Elles faisaient peut-être référence à la manière dont parfois sont égorgés ces moutons. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ça donne lieu à tout un tas de dérives et qu'aucune des règles sanitaires les plus élémentaires parfois sont respectées. Donc il ne faut pas juger de façon trop rapide et sorti de leur contexte ces propos. D'accord. D'une manière générale, je sais qu'à chaque élection, c'est l'exercice préféré d'un certain nombre de passer au scanner tous nos candidats pour essayer de trouver tel ou tel propos qu'ils auraient tenu il y a quelques années, souvent en sortant ces propos de leur contexte. Moi, je vais vous dire les choses très simplement. Il peut y avoir des propos qui correspondent pas à nos idées, à nos valeurs, qui sont condamnables. En général, ces personnes en question s'en sont expliquées, ont exprimé des regrets. C'est parfois exprimé sous le ton de l'humour. C'est de l'humour de mauvais goût, mais ça n'est pas que de l'humour.
Mais je vais vous dire. Non, mais en politique, on doit avoir quand même une.
Oui, nous sommes d'ailleurs très exigeants et un certain nombre de nos candidats, d'ailleurs au départemental, par exemple, qui avaient tenu des propos inacceptables, et eh bien nous les avons exclus. On aimerait bien que.
L'inacceptable est.
Oui, c'est pas forcément sur le même critère que les journalistes de Libération qui passent au scanner nos candidats, en effet. Mais je vais vous dire, il faudrait peut-être que ce travail se fasse pas uniquement en direction du Front National, parce que moi je vois par exemple que les Républicains ont investi comme candidat un député maire sortant, M. Vialat, dans une circonscription du Var. Il avait dit dans un débat parlementaire, les casseurs sont des descendants d'esclaves, et c'est pour ça que Taubira les défend. Il a d'ailleurs été condamné par la justice pour avoir tenu ses propos. Et aujourd'hui, eh bien, il est investi par M. Barouin. Et puis peut-être demain, qu'il sera un soutien de M. Macron.
Mais là,
et
on demande de votre parti. Pourquoi à chaque fois, comme pour les problèmes européens,
quand on a des candidats qui franchissent la ligne rouge, ils ont été écartés par le passé.
Et c'est quoi la ligne rouge?
C'est déjà arrivé. Maintenant, s'il y a des propos qui ont été excessifs, dont ils se sont excusés, eh bien, on peut évidemment passer l'éponge. Et si c'était des propos qui étaient de l'humour, même de mauvais goût, eh bien, on leur demande de faire attention à l'avenir. Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on cherche toujours des poux dans la tête des mêmes.
Non, c'est une explication.
C'est-à-dire, en l'occurrence, il n'y a que les 573 candidats du Front National qui ont été passés au scanner. J'aimerais bien qu'on en fasse autant avec les candidats et les soutiens des autres formations politiques. Je rappelle quand même, par exemple, pendant la campagne, que M. Macron, il avait comme responsable du Val d'Oise M. Mohamed Saou, qui avait fait de l'aveu même de M. Macron des trucs extrémistes, radicaux. Voilà, il était dans la mouvance islamiste, manifestement. Bon, ça l'empêchait pas d'être le représentant officiel d'En Marche. Donc j'aimerais bien que on ait les mêmes niveaux d'exigence, d'exemplarité à l'égard de nos adversaires.
Voilà qui dit. Donc Marine Le Pen, vous le considérez à rater son débat de l'entre-deux-tours, de la présidentielle. Est-ce que vous comptez faire le bilan de cette campagne, peut-être après les législatives, j'imagine?
On fera le bilan général de ce cycle électoral 2017. Vous disiez tout à l'heure que Marine Le Pen avait subi un échec. Non, elle n'a pas gagné l'élection présidentielle. Mais je vous rappelle quand même qu'elle a rassemblé...
Dans l'échec de la crédibilité, on va dire.
Non, mais elle a rassemblé 10 millions 700 000 suffrages, c'est-à-dire 3 millions de plus que le niveau maximal obtenu par le Front National, toute élection confondue dans son histoire. Donc c'est une nouvelle étape de progression, assez spectaculaire, 34% des voix au second tour, le record précédent c'était 28% au second tour des régionales, hein, à l'échelle nationale, donc c'est indéniablement un succès.
Mais ne me dites pas que c'était pas une déception quand les
chiffres... Non mais on peut toujours être déçu en espérant faire plus, mais c'était quand même... une nouvelle étape de progression importante de notre mouvement.
Ce n'était pas ma question. Ma question,
ensuite, Marine Le Pen a reconnu, vous l'avez dit, que le débat, la stratégie qu'elle avait adoptée dans ce débat du deuxième tour était ratée. C'est d'ailleurs assez rare en politique, hein. Un responsable, surtout à ce niveau de responsabilité, qui fait un mea culpa, qui a l'humilité de reconnaître une erreur comme ça. On aimerait bien un peu plus de remise en question de certains qui ont été au pouvoir, qui ont eu les pleins pouvoirs, qui ont échoué totalement dans tous les domaines et qui jamais n'expriment le moindre regret alors qu'ils ont mis des centaines de milliers de personnes au chômage ou qu'ils ont livré à l'insécurité des centaines de milliers ou des millions de citoyens. Eux, ils n'expriment jamais le moindre regret. Marine Le Pen, elle a la hauteur de vue et peut-être la grandeur d'âme d'exprimer mais voilà, quand un débat est raté, de l'assumer. Bon, maintenant, le débat, évidemment, sur l'ensemble de ce cycle électoral 2017, présidentiel et législatif, il interviendra après les législatives. Ça permettra d'analyser à la fois ce qui a été incontestablement un succès, une progression, ce qui a bien fonctionné, et puis aussi ce qui a été amélioré pour être encore plus performant, encore plus rassembleur. Il y a quelque chose d'important, c'est le changement de dimension électorale de notre mouvement qui va nous amener évidemment à en tenir compte dans notre organisation, voir aussi les sujets sur lesquels nous devons convaincre, nous devons entendre le message que les Français nous ont adressé, voilà, pour être évidemment à la hauteur de l'espoir que notre mouvement suscite. Moi, je crois que cette recomposition politique fait que, évidemment, comme alternative au pouvoir d'Emmanuel Macron, eh bien, le Front National sera le seul.
C'est
un élément nouveau pour le quinquennat à venir.
Est-ce que la grande explication attendra le prochain congrès, c'est en 2018, hein, c'est ça?
Le prochain congrès du Front National, oui, qui sera le moment de respiration démocratique interne,
ouais,
bien sûr.
Qu'on pourra tenir en apnée jusqu'au grand moment de respiration interne, quand on voit que le numéro 2 de votre parti, Florian Philippot, menace déjà... peut-être avec perte et profit de quitter le parti si jamais, eh bien, le FN devait renoncer à la sortie de l'euro. On l'écoute.
Il n'y aura pas de nouveau programme après les élections.
Dans le projet fondateur politique du FN.
Mais je n'imagine pas une seule seconde que mon mouvement devienne un mouvement fédéraliste européiste
donc,
qui défende comme le PS, l'UMP, En Marche,
et l'UDI
et le MoDem et les Verts et tous les autres. L'Union européenne actuelle, ça n'aurait aucun sens. Si mon mouvement devenait l'inverse de ce qu'il est, oui, j'ai aucune raison de rester.
Voilà, aucune raison de rester. Le numéro 2 du parti qui menace de partir avec
les
bagages, est-ce que c'est du chantage?
Vous oubliez le début de la phrase, il a dit « si mon mouvement devenait l'inverse de ce qu'il est, s'il devenait fédéraliste européen
». Florian
Philippot n'a aucune crainte à avoir, le Front National ne va pas devenir fédéraliste européiste, et il le sait bien.
Vous ne craignez plus qu'il parte, en fait. Voilà,
Nous aurons, mais moi je souhaite que tout le monde... avec sa sensibilité, avec son parcours, avec son talent, travaille à l'intérieur de notre mouvement et lui permettre d'être encore plus rassembleur demain. Mais on ne va pas faire l'économie, évidemment, de la réflexion, d'une réflexion d'ensemble sur la façon de présenter notre projet, sur les aspirations des électeurs pour être à la hauteur de leurs attentes. Le congrès de notre mouvement, il interviendra sans doute à la fin 2017 ou dans le début de l'année 2018, mais ça nous empêchera pas dans les mois qui précèdent d'évoquer sereinement, d'ailleurs, toutes ces questions. Vous savez, on aime bien dans les médias mettre l'accent sur les petites différences entre les dirigeants du Front National. Mais vous conviendrez quand même que ces différences, elles sont extrêmement mineures. À côté de ce qu'on observe chez les Républicains ou au Parti Socialiste, ou quand on va d'un responsable à un autre, ils ne sont d'accord sur rien. Ils expriment systématiquement des divergences, alors que on peut dire qu'au Front National, c'est vrai, nous assumons totalement le fait qu'il y ait des sensibilités, mais sur l'essentiel, la défense de la France, retrouver notre liberté en tant que nation, défendre notre identité, nous sommes d'accord.
Mais pour parler franchement, est-ce que vous devez quand même à un moment peut-être nous le dire, est-ce que la sortie de l'euro était la bonne stratégie? Est-ce que on l'entend en off?
Marine Le Pen a d'ailleurs dit c'est un sujet.
C'était une erreur de stratégie.
Qui a inquiété beaucoup de Français et il faut dire que tout a été fait pour les inquiéter sur cette question. Mais pour moi, ce qui me paraît le plus dommageable, c'est que notre projet économique a été réduit à cette question monétaire. Or, le projet économique que nous avons défendu et que nous défendons toujours, notamment dans le cadre législatif, c'est la baisse de la fiscalité, c'est la baisse des charges, c'est l'allègement des contraintes qui pèsent sur nos entreprises, c'est le soutien à l'économie réelle, c'est le protectionnisme, c'est-à-dire éviter la concurrence déloyale, c'est le patriotisme économique. Toutes ces questions-là et toutes ces mesures, ou l'essentiel de ces mesures, pourraient être mises en œuvre indépendamment de la question monétaire. Donc, on peut pas... c'est très malhonnête.
Oui, mais ce qui est honnête,
malhonnête de réduire notre projet économique à cette
seule question. Non, ça l'est pas, non. Puisque Marine Le Pen expliquait elle-même que 70 à 80% de son programme est lié et conditionné par cette sortie de l'euro.
Non, elle avait dit qu'il était conditionné surtout par la renégation d'une manière générale
des traités
européens, qui est une prérogative présidentielle, donc c'est moins le sujet législatif. Retrouver notre souveraineté territoriale, les frontières, souveraineté législative.
On connaît le reste du programme, je vous cite la phrase de Marine Le Pen.
Et notre souveraineté économique.
Donc vous ne diriez pas que c'est une erreur de stratégie?
Non, je fais le constat que d'autres font évidemment, et que notre candidate a fait aussi, que sur cette question-là, eh bien, les Français ne nous ont pas suivis. Mais je crois que ce qui est important, c'est de montrer que notre projet économique, il est au service de l'économie française, en soutien à nos entreprises qui créent des emplois. Et sur l'Europe, je voulais y venir, là aussi, notre position a souvent été caricaturale. On nous a présenté
comme
hostile à toute construction européenne, alors qu'en réalité, on défend un projet positif d'une Europe construite différemment, beaucoup plus souple, beaucoup plus respectueuse des nations qui la composent, ce qui n'empêche pas des coopérations, bien sûr. Aujourd'hui, on peut quand même faire le constat que l'Union européenne, dans laquelle Emmanuel Macron veut aller encore plus loin, elle est en échec total, elle organise l'impuissance collective des nations européennes, et elle est devenue le contraire de ce qui a fait la force, le rayonnement de la civilisation
européenne. Est-ce que maintenant il n'est pas temps de changer de disque pour le Front National? Est-ce que c'est un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire l'immigration, l'islam, etc., plutôt qu'effectivement la sortie de l'euro, vous venez de le concéder vous-même, à braquer les Français? Vous disiez tout à l'heure, il y a des sujets où nous devons convaincre. C'est quoi? Ce sont quels sujets d'ailleurs?
Je pense qu'en matière économique, par exemple, c'est important, bien sûr, de convaincre, de montrer aux Français que nous avons des vraies solutions, qui seront des solutions pérennes, parce que on a réussi à faire croire aux Français que le déclin économique était une fatalité contre laquelle on ne pouvait rien. Or, si on a à nouveau un État qui joue son rôle, qui protège l'économie française, qui aménage le territoire, qui organise la lutte contre la concurrence déloyale, et en même temps un État qui n'est pas tentaculaire, omnipotent, qui paralyse pas l'activité économique, on peut défendre l'emploi dans notre pays.
Philippot, vous le direz, sans retrait de l'euro, il n'y aura pas de patriotisme économique, il n'y aura pas toute une batterie.
Mais moi, je me refuse.
Est-ce que vous voulez mettre en œuvre qui sera mise en œuvre?
La question monétaire, elle est importante, elle est d'ailleurs très complexe. Ouais. Nous avons évoqué pendant la campagne la possibilité de faire évoluer l'euro, monnaie unique vers un euro monnaie commune. Mais moi, je me refuse à considérer la question monétaire comme l'alpha et l'oméga d'un projet politique. Voilà.
Donc, à nouveau, c'est vous qui vous l'aviez présenté comme ça. Hein.
Je crois que quand vous prenez les 144 engagements
présidentiels, la prochaine fois, vous ressortira la phrase de Marine Le Pen.
Quand vous prenez les 144 engagements présidentiels de Marine Le Pen, il y a énormément de mesures de soutien à l'économie, de soutien aux entreprises, parce que c'est pas l'État qui crée des emplois, c'est l'État qui doit créer les conditions pour ensuite que les entreprises créent des emplois. Eh bien, il y a beaucoup de mesures qui vont évidemment dans ce sens, de la liberté économique, de la liberté d'entreprendre.
Votre parti a connu, c'est une vieille histoire, la scission au Front National, a vécu des heures, notamment avec Bruno Maigret. Est-ce que on peut craindre une scission au Front National?
Non, je ne crois pas du tout. Pour avoir connu cette période...
Vous y étiez?
J'étais un jeune militant à l'époque, donc je l'ai vécu comme militant.
Le parti, il a laissé des plumes.
Non, mais les situations n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et en l'occurrence, je crois que ce qu'on essaye de souligner comme petite divergence de point de vue, de sensibilité au sein du mouvement sont mineures et ça doit faire l'objet, encore une fois, de débat.
C'est pas une honte d'avoir des divergences. On a l'impression on veut cacher.
C'est d'autant moins une honte que je suis en train de vous dire que ces sensibilités, on les assume totalement. Il peut y avoir des. Évidemment, on est un mouvement qui représente un tiers du corps électoral, 34% des voix, qui rassemble 11 millions de Français. Il est évidemment normal qu'il y ait des sensibilités différentes. On n'est pas une secte. Et donc, après le cycle de mobilisation électorale, c'est-à-dire jusqu'aux législatives, eh bien, évidemment que tous ces sujets-là, on pourra en parler. Pas simplement notamment la question de changement de nom ou de d'améliorer l'organisation, aussi de ces questions de stratégie, de la formulation de notre projet. C'est évidemment des questions très importantes, et je crois d'ailleurs qu'on pourra avoir ce débat dans d'excellentes conditions de sérénité.
Il peut y avoir des courants au FN comme il en existe au PS ou dans les autres partis.
Ce qui fait aussi la force d'un mouvement politique, c'est sa cohérence, et je crois que c'est notre force aujourd'hui. Mais en revanche, je pense que s'il est nécessaire d'être unis dans l'action, il peut évidemment y avoir une large part en amont à la discussion. Et donc, c'est ce que nous ferons.
Vous ne répondez pas à ma question. Il peut y avoir des courants au sein du Front National, un courant patriote mené par Philippot.
Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens. Parce que
un courant identitaire mené par Marion Maréchal.
Je ne pense pas que ce soit des différences qui soient telles qu'elles nécessitent des courants. Parce que je crois qu'il y a une vraie unité, une vraie cohérence politique dans notre projet. On veut que la France et les Français retrouvent leur souveraineté, que nous puissions à nouveau nous défendre notre identité face à au chaos migratoire, face à la menace islamiste, défendre la laïcité, les principes républicains, protéger l'économie française. Sur tout ça, on est d'accord. Qu'il y ait, sur certains aspects programmatiques, voilà, qu'on veuille insister sur tel aspect plutôt sur tel autre, mais c'est bien normal. Oui. Et c'est ce qui caractérise la vie d'une organisation humaine et d'un parti politique.
Est-ce que Marion Maréchal Le Pen reviendra dans le parti?
Ça, c'est à elle qu'il faut poser la question. Mais en tout cas, moi, je comprends évidemment la décision qu'elle a prise.
La comprenez?
Parce que c'est le choix d'abord d'une jeune femme de 27 ans qui souhaite à la fois acquérir une expérience dans le privé. On reproche souvent aux responsables politiques de n'avoir aucune expérience de l'entreprise. Elle souhaite acquérir une expérience professionnelle en dehors de la sphère publique. C'est évidemment très louable et très respectable. Elle souhaite aussi, et on peut le comprendre, se consacrer un petit peu davantage à sa vie personnelle et familiale. Quand on a été en première ligne pendant 5 ans, avec un mandat parlementaire à un haut niveau de responsabilité...
C'est de la belle langue de bois,
ça. Évidemment qu'on le sait que c'est chronophage, et que c'est chronophage au détriment de la vie de famille, de la vie familiale, de la vie personnelle. Donc voilà, tout ça est parfaitement respectable. Non, je lutte pas du tout. Je pense que j'espère qu'un jour elle reviendra mener le combat politique à nos côtés.
Vous,
et je crois qu'elle a largement laissé cette porte ouverte d'ailleurs.
C'est une vraie perte pour vous. Ça va pas être un handicap dans le
Oui, mais je pense que d'abord que c'est pas une perte durable. Encore une fois, je pense qu'elle sera amenée dans le futur à revenir
dans
le combat politique à nos côtés. Non, mais c'est ce que je pense et ce que j'espère. Mais c'est elle qui peut apporter la réponse, pas moi.
Vous avez quel âge, Nicolas Bay? Vous êtes jeune.
J'ai 39 ans.
39 ans, vous avez l'âge d'Emmanuel Macron.
Absolument, nous sommes nés le même jour.
Dites donc. Et alors
ça fait au moins un point commun, il n'y en a peut-être pas beaucoup d'autres.
Oui, alors justement, ses premiers pas de président de la République, Florian Philippot, ce matin, était baba devant, effectivement, la façon dont il a reçu Vladimir Poutine. Est-ce que vous partagez son enthousiasme?
Je ne suis pas sûr qu'il était baba, et moi je ne suis pas baba non plus. Je vois simplement qu'il a fait, sur le plan du protocole, de l'image, c'était plutôt réussi. Maintenant, vous savez,
sur le fond.
On a suffisamment d'expérience pour attendre un peu les actes qui peuvent en résulter. Le fait de renouer le dialogue avec la Russie est une bonne chose, indéniablement. On ne va pas dire le contraire, puisque nous avons plaidé pour cela depuis de nombreuses années. Il y a évidemment des combats à mener avec la Russie. On a des intérêts communs, y compris des intérêts économiques. Je rappelle quand même que les sanctions économiques contre la Russie, nous en avons été directement les victimes, parce que on a résulté un embargo sur un certain nombre de produits, notamment les productions agricoles dont souffre aujourd'hui l'agriculture française directement. Et puis on a des intérêts communs aussi dans la lutte contre le terrorisme, parce que l'islamisme radical a frappé par des actes terroristes sur notre sol, a frappé également la Russie, frappe encore évidemment au Moyen-Orient. Donc il y a la nécessité de mener ce combat avec détermination et d'en finir avec les atermoiements qui ont caractérisé le quinquennat de François Hollande.
Pas facile de vous couper, mais on va y arriver. Donc Vladimir Poutine était donc à Versailles, reçu comme un tsar. Le président français n'y est pas allé par quatre chemins, pour rappeler au chef du Kremlin les valeurs démocratiques, les droits de l'homme, et puis bien sûr le dossier de la Série, je voudrais que vous l'écoutiez.
Deux volontés profondes que j'ai réaffirmées dans le dialogue que nous avons eu avec le président Poutine. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français.
Le FN a souvent dit qu'il fallait que la France soit entendue et respectée. Vous applaudissez ce qu'a dit Emmanuel Macron à propos de la Syrie?
Non, j'applaudis pas spécialement. Je suis pas nécessairement en désaccord avec ce qu'il dit, mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une approche pragmatique et de pas être dans les leçons de morale en permanence. Le régime de Bachar el-Assad, disons-le clairement, il est très critiquable. Mais force est de constater, et c'est ce pragmatisme qui a caractérisé la politique avec succès de Vladimir Poutine là-bas, force est de constater qu'il est le seul rempart contre l'État islamique sur le terrain. Et Laurent Fabius, comme ministre des Affaires étrangères, et François Hollande ont multiplié les atermoiements, je le disais tout à l'heure, en refusant tout partenariat diplomatique avec ce régime de Damas, en faisant même preuve de connivence avec certaines factions islamistes sur le terrain, qu'on appelait gentiment les rebelles, mais qui ont été, étaient des groupes islamistes qui n'ont pas grand-chose à envier à l'État islamique. Et le résultat de tout ça, eh bien, ça a été plutôt le renforcement de l'État islamique sur le terrain. La vision beaucoup plus pragmatique de Vladimir Poutine, ça a été une intervention ciblée de soutien systématique à tous ceux qui combattent l'État islamique. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est très affaibli en Syrie et en Irak.
Merci beaucoup, Nicolas.